Bonjour à toutes et à tous, Didier Delatte sur IDFM. Culture, insertion, jeunes talents, solidarité, citoyenneté, environnement. On fait le plein dans notre département et dans notre rendez-vous compte, évidemment. Comme un bateau dérive, sans but et sans mobile, je marche dans la ville, tout seul et anonyme. La ville et ses pièges, ce sont mes privilèges. Je suis riche de ça, mais ça ne s'achète pas. Je m'en fous. Bonjour Céline. C'est vous qui avez demandé à ce qu'on écoute cette chanson de Goldman, Je marche seul. Pourquoi ?
C'est parce que j'étais souvent seule par rapport à mon vécu, à mon passé. Il a fallu attendre l'adolescence pour qu'enfin je sois accompagnée.
D'accord. Puis je crois que vous avez connu la rue, justement.
Oui. Hein,
donc vous marchiez seule dans la rue.
C'est ça.
Hein, on va y revenir. C'est une histoire personnelle que vous avez souhaité partager avec nous. Pourquoi ?
Surtout pour dire aux enfants qui ont une adoption plénière qu'ils peuvent reprendre leur nom, parce que la mienne, elle a été révoquée par le tribunal de Pontoise.
Voilà, c'est un petit peu tout l'objet, hein, donc on va revoir ça étape par étape, si on peut dire. Tout commence dans le Val-d'Oise.
C'est ça.
Dans les années 70.
Oui.
Voilà. Un couple, vos parents qui se séparent. Vous êtes alors très jeune. Et alors, que se passe-t-il ensuite ?
Mes parents ont divorcé, ma mère s'est remariée, puis son mari, il était très maltraitant. Et en 81, je ne sais pas ce qui s'est passé pour qu'on nous vole notre nom, j'ai bien dit voler le nom, parce que mon père n'était pas au courant et dans une adoption plénière, il aurait dû donner son accord. Et ça n'a pas été le cas, ça lui a été caché, et voilà.
Voilà, alors adoption plénière, à distinguer d'une adoption simple.
Oui, c'est ça. L'adoption plénière est irrévocable par la loi. Et l'adoption simple, l'enfant, quand il grandit, il peut reprendre le nom de ses parents.
Donc, vous parliez d'un beau-père qui commettait des violences psychologiques,
oui.
Mais aussi physiques.
Oui, les deux.
Oui.
Il
nous
frappait
à
coups de martinet. Ouais, enfin, ouais.
Voilà.
On devait faire le lit au carré. Si ce n'était pas au carré, il nous frappait, par exemple.
Ouais.
Mais moi, je me demande s'il ne le faisait pas exprès de dire que le lit n'était pas fait au carré. Quoi. Parce que chaque fois, il n'était pas fait au carré.
Alors, vous m'avez écrit un long témoignage, hein, très émouvant, et vous écrivez justement que la souffrance physique des coups disparaît, mais que la douleur reste. Douleur psychologique, j'imagine ?
Oui.
Ouais.
Oui, parce que je suis quand même marquée. Et parfois, quand des gens, par exemple, ont des gestes brusques, j'ai peur, quoi.
D'accord. Vous dites, je ne reçois plus de coups, évidemment, mais les paroles assassinantes restent.
Ah oui.
Voilà.
Ça, oui.
Ouais.
Parce que c'est... Enfin, comment dire ? Psychologiquement, il y a des phrases qui sont... Par exemple, ma mère s'est mise dans une secte avec son mari en 75. Et moi, je me rébellais très vite. Et son mari, il disait, si tu parles, ouais. Dieu va tuer tes frères. Il se vengera sur maman.
Puis, il y avait aussi un certain nombre de, disons, de punitions. Par exemple, écrire des colonnes entières du nom de Dieu, etc.
Oui, donc... c'est ça. C'est-à-dire, quand on allait au rassemblement de cette secte, lui, il avait fait des colonnes avec Dieu et puis d'autres mots. Et si j'oubliais un bâton pendant le discours, je devais mettre un bâton à chaque fois que j'entendais ce mot-là. Et si j'en oubliais un, la maison, c'était... voilà, quoi.
Elle avait ce regard innocent qui n'attendait qu'à être aimé. Mais la vie fut autrement si fragile, tous ces mots ont fini par la briser. Elle qui ne voulait qu'être aimée. Oh, oh, oh.
Vous êtes toujours bien sûr IDFM, on retrouve l'invité de notre rendez-vous compte d'aujourd'hui, Céline, qui continue à nous raconter son parcours personnel d'enfant révolté contre l'adoption plénière qui très jeune l'a privé du nom de son père biologique. Vous écrivez aussi « J'avais appris dès le plus jeune âge que si je blasphémais, eh bien je mourrais. » Alors
oui. Je suis toujours là.
Oui.
Alors du coup, à un moment donné, le mot blasphème, j'avais compris que c'était la mort. Et comme moi je souffrais de trop, je me suis dit « mourir, ça va abolir la souffrance ». Alors, du coup, j'ai fermé les rideaux, j'ai déchiré leur publication. Et le lendemain, j'étais encore en vie. Donc, je ne comprenais pas. Et j'ai été jusqu'à brûler une Bible. Alors là, je me dis, c'est bon, je suis morte, tant mieux, je ne souffrirai plus. Puis non, mais voilà.
D'accord. Et donc, toutes ces maltraitances physiques, psychologiques, c'est l'arsenal complet de ce qu'on appelle désormais l'emprise. Est-ce que c'est parce que vous vous montriez rebelle à ce conditionnement absolu ou pourquoi ?
Ah non, moi je pense que j'étais toujours rebelle.
D'accord.
Depuis mon enfance, il y a des choses qui n'allaient pas. On disait, il faut s'aimer les uns les autres, il ne faut pas être violent et tout ça. Et à la maison, c'était tout le contraire. Ce n'était pas logique. Il y avait beaucoup de choses qui étaient illogiques à la maison.
Oui, c'est-à-dire la contradiction entre ce qu'on vous faisait apprendre du discours religieux et puis la pratique qui était tout à fait opposée.
Voilà, c'est ça.
Voilà. Alors, vers l'âge de 12-13 ans, vous confiez à une femme qui vous enseigne la religion les sévices que vous subissez. Et alors, qu'est-ce qui se passe ?
Moi, à l'époque, je prenais tout au premier degré. Elle m'a dit c'est pas vrai, mais elle m'a dit c'est pas vrai dans le sens pour elle c'était impossible et moi du coup je l'ai mal pris et cette personne elle a été dans la congrégation pour leur dire ce qui se passait et du coup ils sont venus me voir, ils me disent non c'est pas possible, il est pas comme ça, il fallait deux témoins oculaires, mais bon il y avait pas de témoins oculaires quoi.
D'accord, et donc finalement il s'est rien passé
C'est moi qui a tout pris. Et ils ont dit que c'était pas possible, que j'étais une menteuse, que j'étais folle. Et de là, j'étais internée en psychiatrie. Et ça a été l'horreur aussi là-bas. Et là, j'ai pris pour un crime que j'ai pas commis, parce que c'était pas ma place. Et j'avais l'impression que la mort allait rentrer en moi. À partir de ces jours-là, je savais que la mort était entrée en moi.
D'accord. Et vous dites, dans votre témoignage, vous employez le terme de « abusivement ». Vous avez été internée abusivement.
Oui, parce que pour être internée, il fallait avoir l'âge de 15 ans et 3 mois révolus. Et moi, je n'avais pas mes 15 ans et 3 mois révolus. C'est la loi, on ne peut pas...
Ouais. Donc encore une fois, c'était assez étrange de vous retrouver dans un établissement où vous indiquez que la violence règne.
Ah oui.
Pourquoi, par exemple ? Ouais.
Ça c'est mon expression à moi perso. Oui. Si t'es pas sage, on te pique. Ils font une piqûre, quoi, pour nous calmer tout de suite. Et il y avait ça m'avait aussi marqué, une jeune fille qui voulait pas manger, ils l'ont pris par les cheveux pour l'emmener à table, quoi.
Vous avez même écrit qu'un psy vous avait conseillé de fumer du cannabis.
Oui, à Paris.
Au lieu de prendre les antidépresseurs.
Oui, c'est ça. Il m'a dit, fumez un joint de temps en temps, ça vous fera du bien.
Qu'est-ce que vous ressentiez pendant cette période, quand vous étiez à 12-15 ans, tout ça dans...
J'étais très mal dans ma peau.
Ouais.
Je dirais, je flirtais avec la mort. Je me mettais dans des situations, par exemple, une voiture passait, je passais en même temps en espérant qu'elle m'écrase, ou j'ai sauté d'un mur. Je suis encore là, quoi. Et je regardais beaucoup, beaucoup de films sur la mort et tout ça. Je me suis approprié la mort.
D'accord. Heureusement, elle ne vous a pas approprié,
oui,
on va dire.
Fait.
Alors justement, pendant cette période, vous rencontrez dans cette institution une psychologue qui vous rassure, une psychiatre, qui vous rassure, qui vous réconforte.
Ah, elle a été géniale. Elle a su me protéger. Parfois, grâce à elle, j'ai eu des sorties aussi, parce que là-bas, il faut une autorisation du psychiatre pour sortir. Elle m'a rendu mes affaires. Elle était vraiment bien, quoi. Puis j'ai toujours des contacts avec.
Voilà, oui, parce que quand on rentre dans ce genre d'établissement, on est privé de ses affaires personnelles.
Oui. Ils nous mettent en pyjama d'office.
Voilà, ouais. Et vous avez écrit « Elle m'a fait rendre mes vêtements, donc mon corps ».
Oui, tout à fait. Voilà. Par rapport aux violences que j'ai subies par le mari de ma mère.
D'accord. Et puis, alors vous semblez opposer cette quasi-mère bienveillante, que vous appelez votre maman de cœur, je crois.
C'est une éducatrice, une éducatrice préférée.
Ah oui, il y avait aussi une éducatrice qui a été très importante.
Oui. ma maman de cœur, c'est mon éducatrice préférée.
Ouais.
Elle m'a vraiment ouvert la porte du monde des adultes.
Alors oui, vous l'opposez aussi à votre mère biologique. Est-ce que vous écrivez que votre mère a été complice ce qu'on vous a fait subir et parce qu'elle ne vous a pas protégé?
Oui, c'est parce que moi, quand j'ai commencé à dire tout sur son mari, je me suis pris une gifle royale. Elle m'a dit « Tu mens, tu veux que je divorce, c'est ça ». Elle m'a pas cru. Mais elle est aussi complice parce qu'elle s'est tue. Elle a rien dit de tout ce qu'on souffrait, mes frères et moi. Elle a rien dit. Bon, pour moi, elle est aussi complice que son mari.
Là, on retrouve cette situation dans beaucoup d'affaires de maltraitance
aux enfants. Oui, c'est ce que m'a expliqué une psychologue dans un centre de victimologie.
Alors, par rapport à cette éducatrice, donc, vous dites que grâce à elle, vous apprenez que tous les adultes ne sont pas pourris.
Oui,
c'est ce que vous
fait.
Dites. Mais qu'est-ce qu'elle a pu vous dire pour vous persuader de ça ? Qu'est-ce qu'elle a pu faire ?
Oh là ! Alors déjà, je l'ai testée sous toutes les coutures.
Oui. Vous l'avez testé.
Ah oui, voilà, j'ai vraiment bien testé. Je suis allée très fort.
Ouais.
Et puis, il y avait des choses que je ne comprenais pas. Pendant qu'elle me disait, tu fais comme ça. Et moi, je faisais l'opposé.
Ouais.
Elle n'était pas là pour me juger. Elle ne m'a pas jugée, elle ne m'a pas condamnée. C'est la première personne vraiment qui... Et des fois, je disais, mais elle ne me dit rien, je ne comprends pas. Et comme dans la secte où était ma mère, par exemple, les Pink Floyd, tout ça, c'était interdit, les anniversaires, c'était interdit. Et moi, quand je suis arrivée au foyer des jeunes travailleurs, eh ben, j'ai acheté les 10 de Pink Floyd, tout ce qui était interdit. J'ai fait, bon, par contre, je ne suis pas tombée dans la prostitution, la drogue, l'alcool et la cigarette. Et j'écoutais Pink Floyd, j'ai joué à des jeux ultra violents. Ça aussi, c'est une période de ma vie où j'ai eu du mal à décrocher des jeux ultra violents, claquer tout mon argent dedans.
Alors, vous avez tiré de cette expérience, assez rare pour un enfant aussi jeune, un trait définitif de votre personnalité, puisque vous écrivez « Je n'étais plus personne, indifférente à la vie, je ne savais plus qui j'étais ».
Oui. Alors, à un moment donné, je ne savais plus si j'étais folle, si j'étais normale, où est-ce que j'en étais. Et j'étais jusqu'à voir un professeur à Paris pour savoir si j'étais normale. Il m'a écoutée, il m'a dit « Oui, vous êtes normale ». Et quand je suis retournée voir le médecin traitant, je lui ai montré comme quoi j'étais normale. Elle me l'a rejetée, elle m'a dit « Mais je sais que tu es normale ». Elle m'a disputée.
D'accord. Mais enfin, vous étiez quand même un peu rassurée. Vous n'étiez pas folle.
Oui, mais parce que je me posais beaucoup de questions, parce qu'à un moment donné, je me dis, j'ai pas de nom, j'ai pas... Tout le monde me dit que je suis folle, tout le monde me dit ceci, je sors de psychiatrie, je vais où là? Je fais quoi? J'étais complètement perdue à un moment donné.
À un moment aussi, avant le foyer des jeunes travailleurs, je crois, vous avez été placée en famille d'accueil.
Oui, ah, c'était super.
Alors allez-y, oui, pourquoi super?
Bah, ils m'ont beaucoup, beaucoup aidée. Ouais. Moi, malheureusement, j'étais pas prête, et psychologiquement, physiquement, puis en plus, j'avais toujours peur. Et la famille chez qui j'étais, ils ont vraiment tout fait pour m'aider. Mais moi, j'arrivais pas à comprendre, j'arrivais pas à me stabiliser.
Oui, malgré tous leurs efforts. Donc.
Voilà, oui. Et j'ai tout fait pour être virée. Du coup, ouais. Je me suis fait virer. Et pour eux, ça a été vraiment un véritable échec, quoi. Ouais. Je pense qu'ils s'en sont voulus pour ne pas avoir réussi avec moi.
Donc, vous ne les avez pas revus pendant un certain temps. Et pourtant, vous avez gardé le contact.
Oui.
Finalement, vous avez repris le contact plus tard.
Oui, c'est ça. J'ai repris contact et on est toujours en contact.
Pourquoi vous avez repris contact?
Bah parce qu'avec le temps, bon, j'ai mûri et il y a aussi que je me suis dit, bon, ben, pas vraiment dire que c'est un regret, c'est plutôt un pincement au cœur parce que j'ai pas su les écouter. J'ai pas su comprendre, j'ai pas su. Voilà, ça a été autant un échec pour eux que beaucoup pour eux, peut-être plus pour eux que pour moi.
C'est toujours un échec partagé.
Ouais.
Donc du coup, vous retournez dans votre famille officielle, on va dire. Et puis, comment ça se passe alors
Ça s'est très mal passé. Je suis retournée à la rue très rapidement.
Ouais.
Je vivais un peu à droite, à gauche, quoi. Et puis voilà. Je rentrais à la maison, me laver tout ça, parce que j'avais gardé la clé de l'appartement quand ils étaient à leur réunion. Et voilà.
D'accord.
Et je ne sais pas très derrière moi, surtout, pour pas qu'ils sachent que je suis revenu. Je prenais un peu de nourriture et puis je repartais, quoi.
Donc, dans la rue.
Voilà.
Finalement, vous vous retrouvez en foyer des jeunes travailleurs. C'est un univers qu'on connaît peu, mais pourtant, ça n'a pas été facile d'y rentrer.
Oui, parce que...
Comment vous avez fait?
Alors, un médecin m'a donné les adresses des jeunes travailleurs. J'ai pris le plus proche de mon lieu de travail. Et puis, la personne qui était à l'accueil, il me dit « Mais non, vous ne pouvez pas, vous ne gagnez pas assez d'argent. » J'ai pris une chaise, je me suis assise au milieu et puis je dis « Je vais attendre, j'aurai ma chambre. » Et puis moi, je dis « Moi, je reste là. » Et il y a un monsieur qui passait comme ça et il me dit « Me faites quoi ?» Je dis « Moi, je veux ma chambre, j'attends. Tant que je n'ai pas de chambre, je resterai là. » Et puis du coup, j'ai eu ma chambre et c'était un vendredi parce que j'ai dû attendre le lundi pour voir mon éducatrice préférée.
D'accord. Donc, un trait de caractère quand même assez déterminé,
oui.
On va dire. Voilà. Et puis, vous entrez en contact avec une association, l'Enfant Bleu.
Oui.
Quels sont les objectifs, les buts?
Alors, eux, ils s'occupent beaucoup d'enfants maltraités.
Alors, qu'est-ce que ça vous a apporté?
Alors, beaucoup. J'ai rencontré la présidente de l'époque et elle m'a beaucoup aidée dans mes démarches déjà pour reprendre mon nom. Elle m'a aidée aussi, elle m'a soutenue psychologiquement avec un avocat qui était là-bas, avec qui j'ai toujours des contacts, qui était là, à l'association. J'ai rencontré aussi une autre femme formidable qui est malheureusement décédée, avec qui j'avais gardé des contacts, qui a su me cadrer. Cette personne a su me cadrer. Puis bon, elle était impressionnante, j'avais plutôt intérêt à obéir.
Ah
oui.
D'accord, comme quoi il faut aussi allier, disons...
Oui, parfois il faut mettre des bonnes limites.
Ouais,
il faut faire peur, entre guillemets.
Bah, oui, il faut marquer des limites,
voilà.
Même symboliques.
Voilà, il faut bien mettre des bons marqueurs. Et je pense que cette personne, elle m'a drôlement aidée aussi à ne pas aller plus loin que ce que je voulais aller.
Voilà.
Et ils m'ont aidée aussi pour ma grève de la faim.
Ah oui, alors on va en reparler après, parce que là encore, c'est une étape assez incroyable, on va dire. Mais vous avez demandé à ce que l'on passe une chanson de Francis Lalanne, toujours à l'air libre.
Oui, ça c'est pour mon éducatrice préférée. Parce que je lui avais fait un beau poème, et je lui avais fait des dessins et puis j'avais mis cette chanson-là. Et qu'un jour, je serai toujours libre quoi, avec elle.
Voilà, un beau programme.
Voilà.
On écoute.
Un jour, c'est juré, je t'emmènerai loin des buildings et du bruit des cités.
des usines, des tours, des cheminées qui font partie tout le bleu du ciel en fumée. Libre, toujours à l'air libre, on s'en ira avant que tout soit terminé.
Vous êtes toujours bien sûr EDFM, on retrouve l'invité de notre rendez-vous compte d'aujourd'hui, Céline, qui continue à nous raconter son parcours personnel d'enfant révolté contre l'adoption plénière qui très jeune l'a privé du nom de son père biologique. Alors vous évoquez une certaine violence qui a toujours marqué en tout cas au moins votre enfance et votre adolescence. Est-ce que, et en particulier par rapport à des gens qui représentaient donc la religion, qu'est-ce que vous faisiez? Oui, quand
c'est
vous, quand vous les voyez dans la rue.
Alors, je prenais leur publication et puis je les déchirais quand je les trouvais dans les boîtes à livres. Quand, puis je continue toujours, parce que je me dis au moins c'est une vie de sauvée.
Est-ce qu'aujourd'hui vous ressentez toujours les mêmes sentiments, les mêmes réactions?
Bah, je déchire toujours quand j'en
d'accord,
trouve. Mais
d'accord.
Bon, quand je les vois, je c'est pas violente, quoi. Je les laisse. Je les agresse plus comme avant.
Je pense que c'est plus prudent même pour vous, quoi. Ouais. Alors, nouvelle étape décisive de votre parcours, une découverte que vous attendiez sans doute, sans même le savoir inconsciemment, un jour. Alors, ça fait penser un peu à Barbe Bleue, dont la femme va dans une pièce qui était fermée et qu'on lui avait défendu d'ouvrir. Vous, c'est pas une pièce, c'est une armoire.
Oui.
Et qu'est-ce que vous trouvez dans cette armoire?
Dans cette armoire, je trouve qui est mon père. J'ai pas son adresse, mais j'ai trouvé qui était mon père. J'ai vu sa photo, son extrait d'acte de naissance et les papiers du divorce et d'autres choses.
Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe?
J'ai fait tout pour retrouver mon père. Quoi.
Ouais. Et un jour, il est réapparu.
Oui. Alors oui. Là, je ne sais pas comment il est réapparu.
Ouais.
Maman, elle lui a dit, écoute, tes enfants ne sont plus tes enfants, ils ont été adoptés pleinement. Il est reparti.
Alors, il faut aussi préciser que lors de l'adoption plénière, votre père n'avait pas été informé.
Oui, c'est ça.
Donc, ça s'est produit sans son consentement.
Oui, illégalement.
Illégalement.
Ça a été prouvé que ça a été ouais. Illégalement.
Ah, c'est quand même assez incroyable. Rendez-vous compte, si je peux me permettre.
Oui.
Et puis, il y a eu d'autres rencontres après avec votre père.
Grâce à la DAS aussi, et pendant 5 semaines, et ça s'est plutôt bien passé.
D'accord.
J'étais contente d'être avec lui, on a fait pas mal de choses.
Et alors, il y a aussi un autre événement dans votre parcours hors norme, une double rencontre sur le plateau d'une émission télévisée, à une rencontre mouvementée d'ailleurs.
Oui.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Eh bien, je voulais rencontrer Lio, parce que je me suis dit, elle va m'aider. Je rentre chez moi et puis j'entends à la radio que Lio passe dans une émission de Laurent Ruquier. Au théâtre, je crois que c'était Le Garnier, je crois, le théâtre. Du coup, j'y vais et je donne ma carte d'identité et je me dis, je m'assois au milieu. Parce que si elle est à droite, je pourrais la voir plus facilement. Si c'est à gauche, c'est à gauche. Et qui je vois? Madame Veil. Je ne savais même pas qu'elle était là.
Simone Veil.
Oui,
ministre
Simone Veil.
De la Santé à l'époque.
C'est ça,
oui.
C'est ça. Alors moi, pendant la pause, je ne sais même pas comment j'ai franchi les gardes du corps. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas comment je me suis retrouvée sur scène, parce qu'elle était quand même assez haute. J'ai attrapé Madame Veil par les mains et je lui ai dit, il faut que je vous parle, je vais reprendre mon nom. Et puis, elle m'a écoutée. Mais entre-temps, l'émission est reprise. Puis elle disait, mais laissez-la parler. Puis il y a quelqu'un qui disait, mais madame, l'émission reprend, c'est du direct. Moi, je disais, je m'en fous de ton direct. Et j'avais préparé une quantité industrielle de fiches Bristol. Du coup, j'en ai laissé une. Après, du coup, je me suis remis à ma place. Et Lio, elle devait aller chercher ses enfants à l'aéroport, elle n'a pas pu rester. Pareil, je la chope et je lui dis, madame, je veux faire la grève de la faim. Elle me dit, vous êtes folle. Non, je ne suis pas folle, je vais reprendre mon nom. Je veux mon nom. Et je lui ai laissé une fiche Bristol aussi. Elle m'a rappelé à mon domicile. Malheureusement, je n'étais pas là et je l'ai perdu de vue. Et si elle m'entend, je voudrais la remercier.
Voilà, ouais, ça serait très bien de faire une petite retrouvaille.
Ah oui.
Les brunes comptent pas.
Mais alors par contre, Madame Veil, elle vous a été très utile, je crois.
Oui, elle m'invitait régulièrement à son bureau. Elle m'invitait aussi parfois à la brasserie, qui aimait beaucoup son mari. Et elle m'a beaucoup, beaucoup apporté, autant psychologiquement, physiquement, et une aide aussi précieuse pour reprendre mon nom.
Et dans le temps, puisque vous m'avez montré des cartes de vœux qu'elle vous envoyait chaque année.
Oui, de 1995, jusqu'à son décès, quoi.
Ok. Et puis, alors, donc, vous avez fait une grève de la faim.
Oui.
Devant le ministère de la Justice.
C'est ça.
Alors ?
À Noël, 95.
D'accord.
Mais la grève de la faim, elle n'a pas abouti, quoi. Et par contre, j'ai remercié tous les députés qui m'ont soutenu, tous les sénateurs aussi qui m'ont soutenu, parce qu'il y en a qui m'ont quand même soutenu, qui m'ont soutenu moralement, qui m'ont soutenu par des courriers. Je les ai remerciés, mais j'ai l'impression que la grève de la faim n'a pas abouti. C'était l'association L'Enfant Bleu qui était derrière moi, quoi.
D'accord. Et donc, finalement, cette grève de la faim n'a pas abouti, mais vous avez quand même atteint votre objectif.
Oui, prendre mon nom.
Retrouver le nom de votre père.
Oui, reprendre surtout.
Reprendre, voilà.
C'est reprendre, parce qu'il m'a dit voler.
Oui,
il y a une différence.
Alors, ce qui est quand même assez incroyable, c'est que normalement, en adoption plénière, l'enfant ne peut jamais reprendre le nom de son père.
C'est irrévocable, c'est la loi.
Irrévocable. Alors pourquoi vous, comment ça se fait que vous, ça a été révoqué, on va dire.
Moi, c'est surtout grâce à Madame Veil, à Simone Veil.
Ouais.
Je ne sais pas comment elle a fait, parce que cette personne, Madame Veil, est vraiment géniale. Elle sait se mettre à la place des autres, à leur niveau.
Et vous m'avez montré donc le jugement du tribunal de Pontoise, hein, et qui a cassé l'adoption plénière. Alors qu'est-ce que ça vous a fait? Qu'est-ce que vous avez ressenti?
Ah, j'étais heureuse comme tout.
Ouais.
Je suis allée récupérer ma carte d'identité, ça je pense à toute ma vie, à la préfecture de Pontoise. J'étais avec une amie et j'ai signé le registre pour reprendre. Et moi, je suis repartie avec le registre. Et la dame, elle me disait, mais non, vous ne pouvez pas. Mais si, il est à moi, il y a mon nom, il y a mon nom. Elle me dit, il y a les noms. Mais je m'en moque, il y a les noms. Ah ça, je montrerai toute ma vie. Et mon amie, elle disait, mais il faut que tu le rendes. Mais non, il y a mon nom, il est à moi, c'est à moi. J'ai eu un mal fou à le laisser. Première chose qu'on fait, c'est qu'on va au champ, parce qu'il y a un Auchan là-bas. Mon premier chèque, avec ma signature, ça je voulais.
Voilà.
Et la caissière, elle me dit, il n'y a pas assez. J'ai pris premier rayon, je l'ai rempli, je dis, je m'en fous, je veux mettre ma signature.
D'accord, ouais.
Et ça s'est fait comme ça.
Voilà. Vous êtes toujours bien sûr EDFM. On retrouve l'invité de notre rendez-vous compte d'aujourd'hui, Céline, qui continue à nous raconter son parcours personnel d'enfant révolté contre l'adoption plénière qui, très jeune, l'a privé du nom de son père biologique. Alors, apparemment, enfin, d'après vous, il n'y a pas eu d'autres cas où des enfants adoptés en plénière, on va dire, ont pu reprendre leur nom d'origine. C'est un cas unique, alors.
À part mon frère et moi, non. Je ne connais pas. À part mon frère et moi, je ne connais pas.
Alors justement, vous pouvez quand même, le message que vous pourriez passer, ça serait quoi à ce moment-là?
C'est que tout enfant adopté en adoption plénière maintenant peut reprendre son nom, parce que nous sommes passés en cours de cassation, ça a cassé le jugement, ça a fait jurisprudence.
Ouais, jurisprudence, ça veut dire que il est possible, donc si un enfant veut récupérer son nom, reprendre son nom, il peut s'appuyer sur votre cas.
C'est ça, tout à fait.
Incroyable.
Ah oui.
Vous êtes quand même, oui, quelqu'un. Alors, et quels ont été, comment ont réagi votre père, votre mère
Alors, mon père, il n'était pas là, mais il a très bien réagi. Il était très content. Mon grand-père, il m'a étonnée, parce qu'il m'a dit, je savais que tu allais reprendre ton nom. Je savais, il fallait attendre pour le temps. Et ma mère, je ne sais pas ce qu'elle a ressenti.
D'accord. À la fin du document que vous m'avez envoyé, vous avez dessiné votre visage.
Oui.
Avec des lettres, dont un M, un H et un S.
C'était ça veut quoi, dire mort, suicide.
Ouais. Hein, ce visage, c'était celui de l'ado révolté que vous étiez. Et maintenant?
Ah maintenant, ça y est, c'est fini. D'accord. La mort, elle est partie en moi. Okay. Tout est parti en moi, quoi.
D'accord.
Elle disait, j'ai déjà trop marché. Mon cœur est déjà trop lourd de secrets. Trop lourd de peine. Elle disait, je ne continue plus. Ce qui m'attend, je l'ai déjà vécu. C'est plus la peine. Elle disait que vivre était cruel. Elle ne croyait plus au soleil ni au silence des églises.
Alors, qu'est-ce que vous éprouvez par rapport à votre parcours de vie longtemps chaotique? Quelles leçons vous en tirez? Enfin, quelle philosophie
Moi, en tout cas, il y a une chose que je sais, c'est que je suis très fière d'en être sortie. Je ne sais pas comment j'ai fait. Des fois, j'ai du mal à réaliser encore. Et franchement, il y a des gens qui sont vraiment formidables. Et si tout le monde pouvait rencontrer les personnes que moi, j'ai rencontrées, des gens bienveillants, aimants, et que s'ils sont placés... Ne pas faire l'erreur que moi, j'ai commise. Moi, au départ, c'est regrettable, ça. Par contre, je disais, ils sont payés pour. Et puis, ils vont tout répéter à ma mère. Alors que ce n'était pas du tout le pour le cas, quoi. Ce n'était pas le cas. Ça, c'est regrettable. J'ai toujours un pincement au cœur de savoir que cette famille a échoué par ma faute aussi.
Votre famille d'accueil.
Oui, ma famille d'accueil.
Et puis, alors, il y a quelques années, vous avez écrit votre autobiographie.
Oui.
Et quel était votre état d'esprit? Qu'est-ce que vous en avez fait?
Je l'ai écrit dans un contexte de violence inouïe. Inouïe. Il fallait voir ce que j'ai écrit moi-même quand je l'ai relu. Et il y avait un journaliste aussi qui l'a vu et qui m'a dit « Il est impubliable, votre livre ». Mais c'est vrai. Hein, moi-même, je ne pourrais pas le présenter, quoi. Et donc, puis, je l'ai brûlé.
Vous l'avez brûlé, ouais.
Et là, si je devais le refaire, ça sera dans un autre contexte. Beaucoup plus calme, plus apaisé, sans violence. Déjà, parce que j'avais vraiment des messages de haine, tellement que j'étais trop mal dans ma peau.
Alors, est-ce que vous êtes engagé dans des associations de protection de l'enfance?
Alors, pour le moment, non, parce que je suis dans un endroit où je ne suis pas véhiculée, c'est trop loin, mais j'y pense. Mais ce que je pense que ce serait plus d'impact si je parle dans les écoles.
Ouais.
Je pense que
témoignage
c'est ça,
direct.
Voilà, je pense que c'est ça mon objectif plus tard. Mais comme là, je vais redéménager, ça sera dans un endroit moins perdu. Je serai à proximité de tout. Je pense que là, je pourrais peut-être faire quelque chose.
Voilà, parce que si l'essentiel de votre histoire dans l'enfance s'est passé dans le Val-d'Oise, vous avez rejoint maintenant un peu le département où vit votre ancienne famille d'accueil.
C'est ça. Bah, j'avais trois départements, enfin deux départements plus un pays. Et je me suis dit, le premier qui va me prendre, eh ben, j'y vais. Et ça
D'accord.
a été celui-ci.
D'accord. Quel est votre regard sur la vie maintenant?
Ah, il est mille fois mieux. Hein. Ah là là, j'apprécie la vie, je la croque à pleine pomme. Ah oui, maintenant j'aime la vie. Je ne suis plus du tout la même qu'avant. C'est complètement tout le contraire. Je ne peux pas vous dire. Je bénis chaque jour. Quoi.
Alors justement, vous avez souhaité qu'on passe une autre chanson de Francis Lalanne. On se retrouvera.
Oui.
Pourquoi?
Ça, c'est pour tous ceux qui m'ont aidé, qui sont malheureusement décédés. Il y a des gens qui me manquent et je leur parle toujours. C'est dommage, de leur vivant, ils n'ont pas vu comment moi j'ai évolué, comment grâce à eux aussi je m'en suis sortie.
Promets-moi, si tu me survis, d'être plus fort que jamais. Je serai toujours dans ta vie, près de toi, je te promets. Et si la mort me programme sur son grand ordinateur, de ne pas en faire un drame, de ne pas en avoir peur. L'amour est plus fort que tout, ni l'enfer ni le paradis.
Voilà. Céline, l'émission est déjà terminée, ça passe très vite. On va se quitter sur cet hommage. Un dernier mot, un dernier message?
C'est pour dire aux enfants déjà qui peuvent reprendre leur nom, battez-vous. Et voilà.
Voilà. Merci beaucoup Céline. C'était Didier Delatte sur IDFM Radio. Vous retrouverez le podcast de l'émission en ligne sur le site d'IDFM. À la semaine prochaine. Même heure, même adresse. Rendez-vous compte.